Hello, hello, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de L'Équipe. Au programme aujourd'hui, l'une des équipes les plus mythiques de NBA, les New York Knicks, qui font à nouveau vibrer le Madison Square Garden. Jalen Brunson et consorts réalisent pour l'instant une très belle campagne de play-off, avec un style tout en dureté qui rappelle les plus belles heures de la franchise. Et comme à chaque fois que les Knicks vont loin, un frisson d'excitation les accompagne. On va donc se demander ensemble si cette équipe a une chance d'aller loin et pourquoi une telle effervescence autour des Knicks ? Qu'est-ce qui rend cette franchise si unique ? Pour en parler, Arnaud Lecomte. Salut Arnaud.
Bonjour.
Et Samy Sadik. Salut Samy.
Salut Gaëtan, bonjour à tous.
Allez, tout le monde est prêt ? Début du game. Samy, les Knicks ont impressionné, on peut le dire, au premier tour des playoffs face à Philadelphie. Le deuxième tour a bien commencé face aux Pacers. Pourtant, sur le papier, quand on regarde l'effectif, on se dit que c'est peut-être l'équipe avec le moins de talent brut, le moins de stars de cette campagne de playoffs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça et surtout, comment ça fonctionne.
Alors, il y a une superstar naissante par rapport à ce que tu dis, Gaëtan, qui est Jalen Brunson. Et effectivement, l'autre All-Star de la franchise, il est en civil. Julius Randle, sa saison est terminée et il regarde les playoffs en spectateur. Mais le reste de l'effectif, c'est pas des stars, c'est plutôt des cols bleus et des très bons cols bleus de la NBA. Josh Hart, OG Anunoby, Dante DiVincenzo, des gars polyvalents, bons shooters, qui défendent, qui jouent avec énormément d'énergie. Il y a un pivot besogneux, Isaiah Hartenstein. Donc on est vraiment dans une équipe qui est magnifiée par un joueur, Jalen Brunson, qui est sur un nuage depuis le début des playoffs. Mais on n'est pas sur une tripotée de stars comme pourraient l'être par exemple les Celtics ou un effectif comme celui de Denver ou de Minnesota. On est vraiment sur une équipe qui, je trouve, maximise son potentiel sur ses playoffs, qui maximise son potentiel parce que, comme tu l'as dit, le niveau de talent est inférieur aux autres cadors de sa conférence. Mais quand on voit ce qui s'est passé au premier tour, comme tu dis, ils ont impressionné parce que New York est donc deuxième. Pas grand monde peut-être les voyait se débarrasser aussi facilement de Sixers avec le retour de Joel Embiid, mais ils ont assuré. Finalement, Embiid a quasiment joué tous les matchs et a joué à un niveau, pas à 100%, mais qui était quand même assez bon pour aider Philadelphie.
Ouais, il était quand même un peu blessé, Embiid. Hein.
Il était un peu blessé, mais il met 50 points au match 3 ou 4. Il arrive à jouer quand même 45 minutes et à peser sur cette équipe. Donc, ils n'ont pas eu une version d'Embiid qui s'est écroulée. Ils ont quand même dû batailler et ils ont dû batailler face à un bon joueur.
Arnaud, comment ça se fait que ça fonctionne ? On est dans une NBA où il y a de plus en plus de stars et Samy nous décrit une équipe de col bleu autour d'une star naissante et ça fonctionne. On arrive à aller loin en playoff quand même.
Oui, parce qu'ils ont de toute façon avec eux comme disait Samy, une équipe de col bleu et ça, à un moment donné, ça paye toujours, notamment à l'Est où il y a une tradition dans le jeu qui veut que les équipes qui défendent un peu mieux que les autres s'en sortent davantage. Donc, ils ont réussi à arracher la deuxième place de la saison régulière. C'est aussi parce que à l'Est, je pense qu'il y avait une petite ouverture cette année, même une grande ouverture, disons-le, qu'ils ont réussi à ouvrir. Donc, ils ont réussi à obtenir une deuxième place qui leur permet d'avoir l'avantage du terrain jusqu'à minima, jusqu'en finale de conf. Mais c'est pas illogique. Ils ont fait une saison extrêmement rigoureuse, extrêmement sérieuse. Il y a eu de bons ajustements de fait aussi en cours de saison. Un garçon comme Anunoby a amené énormément en arrivant. Bon, Bogdanovic avant qu'il se blesse. Il y a eu Precious Achiuwa qui est arrivé aussi en cours de saison, qui aujourd'hui est plus que précieux, il mérite bien son prénom. Et puis voilà, il y avait une conférence cette année qui était un peu ouverte derrière les Boston Celtics, même si évidemment on avait cité les Sixers ou les Milwaukee Bucks parmi les prétendants. Mais bon, ils ont eu des pépins toute la saison, notamment leurs superstars, hein, que ce soit Joel Embiid aux Sixers ou Giannis Antetokounmpo à Milwaukee. Et les Knicks ont réussi à passer au travers des gouttes avec, en effet, comme le relevait Samy tout à l'heure, un joueur qui n'est pas devenu une superstar depuis le début des playoffs, mais qui l'est depuis un certain nombre de temps, de mois maintenant, qui est Jalen Brunson, qui en effet s'est révélé parmi, aujourd'hui c'est un des 5 meilleurs joueurs de la saison, très clairement.
Ouais, top 5 MVP.
j'ajouterais juste Gaëtan sur le côté aussi, c'est une équipe qui se connaît finalement, parce qu'on a parlé de Brunson, de Hart et de Vincenzo, tous ont fait l'université ensemble, ils ont joué, ils ont gagné ensemble, donc il y a des automatismes, il y a une alchimie qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs en fait.
Ils ont même été champions.
Les Nova Boys, quoi. C'est gars de Villanova qui se connaissent et qui ont des vraies affinités ensemble.
Au-delà de ça, ils ont même été champions en collège. Je crois que la première année 2016, ils sont champions tous les trois. De Vincenzo, même s'il jouait peu, parce qu'il devait être freshman, je crois. De Vincenzo, Brunson et Josh Hart jouaient ensemble la première année, et 2016. Et en 2018, ils sont de nouveau champions, cette fois sans Josh Hart, mais avec un rôle majeur de Di Vincenzo, qui, je crois d'ailleurs, doit être MVP, MIP de la finale universitaire.
MOP,
pardon. MOP de la finale universitaire. Donc, du coup, je pense qu'il y a aussi cette espèce d'ADN de la gagne chez eux qui s'est transférée au Knicks. On n'oublie pas aussi, pour expliquer l'excellente saison, c'est que l'an dernier, ils avaient été déjà au deuxième tour des playoffs. Hein. Rappelons-le, ils avaient passé un tour de playoffs. Donc je crois qu'ils sont dans la continuité, tout simplement, et qu'ils ont profité, comme je le disais tout à l'heure, d'une ouverture dans cette conférence Est qui était très instable et peut-être moins dense, et même certainement moins dense que l'Ouest.
On n'a pas encore parlé du coach. Tom Thibodeau, c'est aussi une équipe de col bleu, de défenseurs à son image, Arnaud, Tom Thibodeau.
Ah ben,
un coach réputé pour ça.
Oui, je pense que cette équipe est en effet totalement à sa main, si je puis dire. C'est quelqu'un qui a déjà un beau passé en NBA, même un long passé, puisqu'il a été assistant chargé de la défense, notamment aux Celtics, qui sont champions en 2008. Il était passé par les Knicks dans les années 90. Ça aussi, ça a un peu de signification, parce que cette équipe des Knicks de cette année, elle est dans l'ADN de la grande période des Knicks, la meilleure période des Knicks avec les deux titres de champion, les deux derniers, les deux seuls, début des années 70. Mais dans les années 90, il ne faut pas oublier que les Knicks ont fait quasiment 15 ans de play-off sans discontinuer, et que c'est la meilleure époque des Knicks. Et à ce moment-là, il y avait déjà Thibodeau, à une petite période, hein, pure 2-3 saisons, je crois, qui était dans le staff. Donc, il a appris son métier dans cette franchise. Il a ensuite s'est affirmé ensuite donc aux Celtics comme assistant chargé de la défense, champion 2008. Et ensuite, évidemment, en prenant en main, on s'en souvient, les Chicago Bulls du début des années 2010, avant de faire la maille. Ils en ont testé beaucoup, les coachs, les Knicks ces 25 dernières années.
Certains
beaucoup,
très beaucoup, prestigieux.
Et hein. Des très grands noms. Phil Jackson, Mike D'Antoni, Derek Fisher, etc., etc. Et c'est Thibodeau qui a trouvé manifestement la bonne recette. Il a été décrié, controversé. Il a une méthode, il a une façon de faire qui n'est pas du goût de tout le monde, mais qui s'est manifestement accomplie depuis deux saisons avec un effectif qui lui ressemble vraiment, c'est-à-dire, et qui est dans l'ADN des Knicks, à savoir des cols bleus, comme disait Samy, avec une grande star surprenante, parce qu'on ne le voyait pas arriver comme ça, qui est Jalen Brunson.
Samy, le style Thibodeau, ça tire beaucoup sur les joueurs. Hein. On a vu un Josh Hart qui a déjà fait 3 matchs sans sortir une seule seconde là, depuis le début des playoffs. C'est ça, c'est beaucoup d'exigences envers ses joueurs, envers l'intensité qu'il leur demande. C'est ça le style Thibodeau ?
C'est de la défense avant tout, l'intensité et surtout des rotations très serrées. En fait. C'est un coach qui use ses joueurs. On l'a vu avec Joakim Noah, qui finalement n'a jamais été vraiment le même après le départ de Thibodeau et après ces saisons usantes à 37-38 minutes de jeu. Là, on peut craindre un petit peu ça pour la suite des playoffs pour New York, parce que globalement, Thibodeau utilise 7 à 8 joueurs. Il y en a 2 qui viennent de se blesser, Mitchell Robinson, OG Anunoby. Il ne fait pas confiance vraiment au reste de son banc. Et comme tu l'as dit, Josh Hart, qui non seulement a joué 3 matchs à 48 minutes et 1 à 53 minutes, il n'est pas sorti ni dans tout le temps réglementaire, ni dans toute la prolongation face à Philadelphie. Donc ça pose question quand même, parce qu'aucune équipe ne tire autant sur ses joueurs. Il y a des blessures, on peut penser qu'Anunoby, c'est aussi l'accumulation, c'est le kilométrage un petit peu accumulé depuis le début des playoffs qui peut peut-être peser. Donc je suis plutôt circonspect sur le fait que ce style puisse l'amener en finale. On rappelle que Tom Thibodeau n'a jamais passé le cap des finales de conférence. Et là, avec un effectif de plus en plus restreint, Ça pourrait commencer à tirer, à tiquer très sérieusement côté New York.
Bon, pour revenir sur ce sujet, Samy, c'est vrai que il a cette réputation et les faits le confirment, oui, d'être un coach très exigeant et de casser les joueurs. Malheureusement, on est obligé en effet de le constater. Néanmoins, je pense que ils ont le feu sacré en ce moment. Ils ont démarré cette série par 2 succès. Ils vont probablement prendre cher, je pense, à un moment donné. Alors, la question, c'est de savoir si aller en finale NBA, je pense que la personne n'y pense présentement. Ça me paraît totalement prématuré. Par contre, aller en finale de la conférence Est dans les 2 semaines qui viennent, ça, c'est l'objectif absolu, puisque ça n'a pas été fait depuis 24 ans. Et donc l'année 2000, vous vous rendez compte, et pour une franchise aussi lourde, aussi importante pour la NBA que sont les Knicks, ça va vraiment être ça l'objectif. Et ils ont 2 victoires d'avance sur les Pacers. Évidemment, je pense qu'ils vont souffrir sur le match 3 vendredi soir. La question, c'est de savoir s'ils ne vont pas un peu l'esquiver d'une certaine manière en le jouant à moitié, en se disant, bon, allez, faites-vous plaisir, les Pacers, de toute façon, on a quand même peu de chances de le gagner parce qu'on est 5,5 à jouer. Les joueurs tombent comme des mouches. La question, c'est... Est-ce qu'ils vont finir à 3 sur le terrain avant la fin de finale de conf, comme Saint-Quentin en tête lite la semaine dernière? Voilà, je pense que l'enjeu du moment vraiment à jour, là, à date, c'est essayer d'arracher 2 succès pour aller en finale de conf. La suite, une finale de conf contre Boston ou Cleveland, ouais, c'est une autre histoire, j'ai envie de dire.
Ce qui réussit à cette équipe, c'est son identité col bleu, sa défense. On avait eu au début des années 2010 un essai beaucoup plus offensif avec Mike D'Antoni au coaching, Carmelo Anthony. Ça avait moyennement réussi. Samy, est-ce que pour que New York aille loin, est-ce qu'il faut forcément cette identité défensive? C'est comme ça que la franchise construit ses plus beaux succès.
Le passé donne raison un petit peu à cette théorie. Bon, si on parle de l'équipe des années 90, il y a effectivement un peu la même construction, une star qui est Patrick Ewing, et le reste, c'est des cols bleus qui jouent dur parce qu'on est dans une NBA beaucoup plus physique, qui mettent des coups, qui n'hésitent pas à en prendre pour en donner. Charles Oakley, Anthony Mason, John Starks. Cette essence de New York, on la retrouve un petit peu 30 ans après. Oui, il y a un petit côté, en fait, je dirais, par opposition à Los Angeles, où on veut des stars, on veut des highlights du showtime, comme popularisant dans les années 80, bah, à New York, la recette gagnante, c'est jouer dur, c'est marcher sur l'adversaire, c'est trouver des joueurs que peu de monde a peut-être vu comme étant des pièces importantes d'une équipe candidate au titre, et voir ce que les autres n'ont pas vu, c'est-à-dire qu'ils peuvent courir plus longtemps que les autres, mettre des coups, avoir plus d'énergie, et que ce sont surtout de bons joueurs de basket derrière une réputation peut-être comme un Charles Oakley, qui est un excellent joueur de basket, même si beaucoup de gens le voient comme un protecteur de Michael Jordan au début quand il était à Chicago, ou voilà, un joueur qu'on va souvent retrouver quand il y a une petite échauffourée pour séparer ou faire la police.
Arnaud, aussi, toi, tu reconnais dans cette équipe actuelle des flashs, des brides des années 90, voire des années 70. C'était aussi une équipe très, très défensive.
Oui, c'est complètement l'ADN de cette ville. De cette franchise, pardon. Mais justement, aussi de cette ville. Quelque part, c'est une ville qui ne dort jamais, dont l'énergie, pour ceux qui connaissent un peu New York, c'est l'énergie est proprement unique. Je pense en tout cas dans le monde occidental. Mais c'est une ville folle et voilà, la ville qui ne dort jamais, etc. Donc je crois que les supporters, le Madison Square Garden, on en parlera un peu plus tard, c'est demande à ces joueurs quelque part, c'est le public qui fixe un peu le style de jeu de cette équipe, je pense, depuis plus de 50 ans maintenant, c'est-à-dire de l'énergie, ne jamais abandonner, mouiller le maillot, se battre sur chaque rebond, parce que quelque part on pourrait presque faire l'analogie avec ce que c'est que de survivre dans cette ville, dans cette jungle urbaine qui est, faut que je fasse ma place, quoi. Et quelque part, c'est un peu pareil sur le terrain pour les Knicks. Ceci dit, il y a une grosse différence à mes yeux par rapport à la grande période donc des années 90, qui était en effet une période aussi physique, énergique, défensive, tout ce qu'on veut. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un basket complètement débridé, notamment depuis la blessure de Julius Randle, ce qui fait qu'il n'y a plus d'intérieur fixateur, on va dire, de point de fixation, d'intérieur offensif sur lesquels on peut s'appuyer, équilibrer le jeu entre la vitesse des arrières, la vitesse de Brunson et donc un intérieur dominant. Là, aujourd'hui, c'est du small ball, donc on joue vraiment très très petit, encore plus avec la blessure de Robinson. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule, un seul big man qui est Isaiah Hartenstein, donc, qui n'est pas un big man, on va dire, dominant dans la raquette. Donc il y a vraiment aujourd'hui un jeu très débridé. Alors, davantage encore là face aux Pacers qui jouent encore plus vite que les Knicks. Donc c'est un peu foufou, pour ne pas dire anarchique, mais ça respecte complètement l'ADN parce que c'est physique, ça défend, c'est énergique et c'est il y a un feu sacré qui se dégage de ces joueurs. Et franchement, c'est plaisant. Moi, je me régale quoi. En ce moment, à voir les Knicks, moi je suis grand fan des Knicks depuis longtemps. Et là, franchement, j'ai eu 20 ans difficiles. Là, je sors un peu du tunnel.
Toi aussi, tu te régales, Samy. Les fans aussi, en tout cas, eux se régalent. Hein. On n'a pas encore abordé ce sujet, mais c'est peut-être la fanbase la plus folle de NBA aussi, les supporters des Knicks.
Ce qu'on voit comme scène de liesse autour, après une victoire en play-off, pour des équipes qui jouent le titre depuis 4-5 saisons, une victoire en play-off, c'est business as usual. Pour les fans des Knicks, c'est presque une célébration de titre à chaque fois. Il y a un petit média qui s'appelle Side Talk qui fait des vidéos de temps en temps à la sortie du Madison Square Garden. On a l'impression qu'ils sont prêts à faire une parade de champions. Les fans sont complètement fous, ça chambre l'adversaire, ça s'enflamme complètement sur la place de leurs joueurs dans l'histoire de la franchise. Donc il y a un vrai côté, une jouissance totale de retrouver une équipe des Knicks à ce niveau-là qui plaît à son public. On l'a dit, je pense que c'est un public de connaisseurs qui aime aussi ces cols bleus, ces joueurs qui plongeront sur la balle, qui vont essayer même d'aller au rebond à 1 contre 3, c'est pas grave, il n'y a aucun ballon qui est perdu d'avance. Et aussi, on voit que c'est une équipe, une fanbase qui voyage avec son équipe. C'est super cher d'aller au Madison Square Garden, les places sont parmi les plus chères de toute la NBA. Et ben, c'est pas grave, on va aller à Philadelphie qui est à 2-3 heures de route et on va faire en sorte que sur les 6 matchs de la série contre les Sixers, 5,5 étaient à domicile. Le Philadelphie a un peu réagi pour le 6e, mais sinon les deux matchs, les matchs 3 et 4, on se serait cru au Madison Square Garden, la salle s'enflammait quand les Knicks faisaient un run pour passer devant ou revenir.
Il va bientôt falloir des parquages de foot dans les salles NBA quoi, pour les supporters adverses, c'est dingue.
Et Samy, ces joueurs-là, on l'a dit, répété, dans l'énergie, ils se nourrissent de cette ambiance, ça les aide, ça les porte.
Oui, oui, on sent que ça les aide. Dans le match 2 contre Indiana, ancienne équipe de Reggie Miller, aujourd'hui devenue consultant pour le diffuseur TNT, il était au stade, il se faisait insulter, siffler, tout ça. Et Josh Hart est venu vers lui amuser un moment, lui en disant, je ne sais pas si tu entends, mais on est en train de te dire fuck you, en fait, dans la salle. Ils se nourrissent de ça, de ce contexte.
En plein match, hein, alors que Reggie Miller était en train de commenter le match pour la télévision.
Exactement, il est venu vers lui, il lui a dit en plein match. Donc, ils se nourrissent de ça, de cette histoire. Ils sont au courant qu'il y a cette rivalité, par exemple, en cours avec Indiana. On en reparlera un peu plus tard, je pense, dans le podcast. Ils sont au courant de ça. Ils s'en nourrissent. Ils se nourrissent aussi des chants qu'il peut y avoir, des explosions quand il y a une action décisive. Ils se nourrissent de ça. Ils voient aussi, il y a un petit le parallèle avec Los Angeles, c'est qu'on voit des stars aussi au premier rang. En fait, c'est vraiment, on voit tout en fait comme type de public, des passionnés, des cols bleus, aussi comme leurs joueurs un peu plus haut dans la salle. Des stars au premier rang, mais tous vraiment viennent voir du basket, pas juste se montrer.
Et Arnaud, ce public, cette fanbase incroyable qui a peut-être le plus bel outil, en tout cas le plus célèbre outil, outil, le mot est même beaucoup trop terre-à-terre pour décrire ce qu'est le Madison Square
Garden.
Plus beau théâtre, voilà.
C'est unique, c'est je pense que tous les gens qui ont cette chance de rentrer dans le Garden... je pense sont marqués, peut-être pas à vie, il faut rien exagérer, mais ils sont marqués parce que c'est elle est tellement différente des autres. Elle a ce côté old school, un peu vintage. Bon, elle a été rénovée, hein, elle n'est pas dans son jus, pas exagéré, mais c'est une salle qui a été vraiment dans sa version actuelle. Elle existe depuis 1968. C'est, je crois, la plus. Je ne me suis même pas posé la question, mais il me semble que c'est la plus vieille salle de NBA. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Et tout le reste, aujourd'hui, les salles modernes, les salles nouvelle génération. Ok, elles sont très très belles, elles sont archi modernes, bien sûr, high-tech, tout ce qu'on veut. Il y en a des splendides, mais rien ne remplacera jamais le Garden dans cette version 68. Quoi. Et puis surtout, elle a un truc qui est unique, plus qu'unique, c'est qu'elle est en plein milieu de la ville. Quoi. Imaginez Bercy, le POPB, enfin aujourd'hui l'Accor Arena, à la place de l'Opéra, quoi, à Paris. Quoi. Imaginez, pour ceux qui connaissent Paris, la place de l'Opéra. Ça ne peut pas être plus central, ou Châtelet-Léal, si vous voulez, ça ne peut pas être plus central dans Manhattan que ce garde. Vous ne pouvez pas passer à côté. Quoi. D'où que vous soyez dans Manhattan, à un moment donné, vous allez passer à proximité. C'est sur Broadway, qui est la grande artère mythique qui descend Manhattan, de bout en bout. Donc déjà, on peut pas passer à côté. Et une fois que vous êtes rentré, vous êtes dans ce qu'on appelle la Mecque, hein, c'est son surnom, dans un temple absolu avec une atmosphère, des couleurs, des odeurs, des visites, parce que c'est une visite touristique. On visite le Madison Square Garden comme on visiterait un opéra, encore une fois, ou un grand musée, etc. Donc oui, ça apporte un plus phénoménal parce que l'ambiance dans cette salle, surtout en play-off et surtout en ce moment, ça doit être fou quoi, parce que ils sont braillards, ils sont pleins de fureur, ils sont frondeurs, ils sont drôles, ils peuvent être très très idiots comme beaucoup de supporters, mais il y a quelque chose quoi. Voilà, on ressort pas d'un match de play-off des Knicks sans avoir vécu ce qu'on appellera une expérience quoi.
Et Samy, le Madison Square Garden, c'est aussi une salle qui a marqué l'histoire du basket, où beaucoup de grands joueurs sont venus signer de grandes performances. Et c'est une place à part dans l'histoire de la NBA.
Oui, exactement. C'est renforcé en fait cette aura du Madison Square Garden par les déclarations des joueurs qui disent c'est performer là-bas, c'est pas comme dans une autre salle. Quand Stephen Curry met 54 points au Garden, c'est presque son acte de naissance aux yeux d'une Amérique au-delà des fans, vraiment fans de basket. C'est pour un public un peu plus casual, entre guillemets, j'ai pas le mot français, de NBA, Stephen Curry accède au rang de star. Donc il y a ce côté mythique, en fait. Finalement, presque s'il y a une autre salle où on veut briller, en plus de le faire à domicile, c'est au Madison Square Garden. Et ça, c'est quelque chose qui dure génération après génération. C'est un public chambreur. Je crois que cette année, Victor Wembanyama, pour son premier match au Garden, il prend des chants overrated, donc surcotés. C'est un public qui aime, chambrer la star adverse, mais c'est encore plus excitant pour la star adverse d'y briller. Ça, c'est un acte de naissance. En fait, il n'y a pas une superstar, il n'y a pas un grand match au Madison Square Garden.
Une ville dans cette ville, en fait, là, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a tout pour réussir. C'est la ville du basket, il y a un théâtre magnifique, des fans fous. Et pourtant, Arnaud, tu le disais, il n'y a que deux titres, donc dans tout début des années 70.
C'est la loose.
Alors que c'est une des franchises les plus mythiques. Enfin, on est très loin des 17 titres des Lakers, des Celtics, même de Golden State. Enfin, on est très très loin
des
autres franchises.
C'est la méga loose.
Mais comment on explique une telle... Alors qu'on s'attendrait à empiler les titres, je ne sais pas, mais à beaucoup plus de succès quand on a dit tout ce qu'on a dit en début de podcast.
Moi, je trouve ça vachement bien, en fait, parce que ça rend les grandes épopées comme ils sont en train de faire là, encore plus belles, encore plus dingues. Ça rend encore plus fou le Garden. Je trouve qu'il y a, ce côté loose est génial pour cette franchise. Alors, ça a été insupportable. Il y a eu beaucoup d'humiliations pendant 20 ans. Il y a eu beaucoup de n'importe quoi. Il y a des moments où vous avez envie de brûler tous les bureaux des dirigeants des Knicks parce qu'ils font n'importe quoi, ils jettent l'argent par les fenêtres. Mais c'est New York, quoi. On y est, on est en plein dedans, des mesures. Et ça s'applique également aux Knicks, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de trucs de... Enfin, j'avais, la dernière fois que j'ai mis les pieds, c'était en 2012. L'année de l'Insanity. Et effectivement, cette année-là, ils étaient en play-off. Ils n'avaient pas gagné un seul pauvre match de play-off depuis 11 ans, depuis 2001. Et cette année-là, j'y suis. Et ils sont menés 3-0 au premier tour par les Heat de Miami avec LeBron James. Et match 4 au Garden, tout le monde se dit c'est fini, ils vont être sweepés ce soir. Et puis ils gagnent de 2 points. une fin de match de dingue, ils gagnent de 2 points. Et là, il y a les confettis qui tombent du toit du Garden. Il y a une fête à l'extérieur de la salle. C'était un dimanche après-midi, me semble-t-il. Et donc, du coup, les gens sont sortis. C'était effectivement, comme disait Samy tout à l'heure, presque la parade des champions. Ils avaient gagné un match. Ils ont perdu le cinquième. Et donc, terminé. Il n'y a plus de série de play-off derrière. Quoi. Mais c'est ça, New York, c'est ça, les Knicks, c'est ça, le Garden. C'est totalement démesuré dans la victoire comme dans la défaite. Donc voilà, au niveau de leur cheminement depuis 50 ans, même plus que ça, parce que c'est une première franchise NBA.
Oui, ils jouent le tout premier match.
Mais ça commence très mal. Dans les années 50, ils ont 3 finales de suite. Ils les perdent toutes les 3, évidemment. Alors, il y a ce miracle de 1970 et de 1973 où ils gagnent 2 titres et ils font une finale, je crois, 72. Donc, ils font 3 finales en 4 ans. Mais c'est une parenthèse enchantée. Après, il y a ces années 90 où ils jouent les playoffs tous les ans, où ils font 3 ou 4 finales de conf, 2 finales, etc. Mais c'est d'abord une franchise qui perd, quoi. Alors pourquoi, comment ? Encore une fois, des erreurs de gestion, de management, des dirigeants qui font n'importe quoi. Et puis la pression new-yorkaise, c'est dur pour les joueurs, pour les coachs, pour tout le monde, quoi. Hein. Donc il y a de multiples explications. Il n'y a pas un climat de sérénité comme à San Antonio, par exemple, quoi. Voilà.
Ouais, Samy, c'est ça. À New York, on peut pas se cacher. Il y a la pression, les tentations aussi de la ville monde. Hein. Certains joueurs, des fois, se laissent happer par la vie nocturne à New York. Ça peut expliquer ce côté loose, manque de réussite.
Bah, je pense que ça vient un étage au-dessus. En fait, il y a pas de stabilité sur le banc. Tom Thibodeau, ça va être le mandat le plus long d'un coach de New York au XXIe siècle, et c'est sa 4e saison. Il y a eu des expériences complètement ratées sur l'étage encore au-dessus. Le manager général, Isaiah Thomas, pendant 3 ans, 2005-2008. Phil Jackson, pendant, je crois, 3 ou 4 saisons, 2014-2017. Et encore à l'étage suprême, le propriétaire, James Dolan, qui était détesté par l'intégralité des fans de New York, qui l'est peut-être toujours. Le succès sportif fait qu'on en parle un peu moins. Mais quand l'équipe était au fond du trou, il y avait des chants « Vend l'équipe, James », il y avait une conflictualité énorme, en fait. Il avait viré Charles Oakley du Madison Square Garden, Charles Oakley, légende de la franchise. Selon Oakley, LeBron James avait dit « Je ne jouerai jamais à New York parce qu'il y a James Dolan ». Donc, il y avait une conflictualité qui partait de là, en fait, qui partait d'un cadre sportif pas stable et d'un propriétaire honni. Et effectivement, ce n'est pas des bases suffisamment solides pour construire, parce qu'il y a la pression, parce que c'est New York, parce qu'il faut gagner, sinon le Madison Square Garden, ils vont vite l'avoir contre eux. Il y avait des fans qui venaient avec des sortes de sacs poubelles en carton sur la tête quand l'équipe était en train de tanker au milieu des années 2010. Donc ce genre d'image, ça marque. Et en plus, il y a les tabloïds new-yorkais, le New York Post par exemple, qui est prêt à descendre l'équipe si jamais ça fait une saison à 17 ou 20 victoires. Donc c'est vrai que c'est un environnement extrêmement difficile où performer et où avoir un cadre sportif clair et qui reste dans la durée, bah c'est d'autant plus important pour survivre, et ils ne l'ont pas eu pendant de nombreuses années avant en ce moment.
Monsieur, on a dit plein de choses, on a décrit tout l'enthousiasme, toute la folie autour de cette franchise. Pour finir ce podcast, j'aimerais donc que vous me donniez chacun, Samy, on va commencer avec toi, que vous me donniez chacun le moment, selon vous, le plus marquant de l'histoire des Knicks. Alors, pas forcément un titre ou un aboutissement sportif, mais voilà, la chose la plus Knicks, on va dire, de l'histoire de la franchise.
Bah alors, je vais partir d'un panier. C'est le panier à 3 points avec la faute de Larry Johnson pour gagner un match en demi-finale de conférence 99 face à Indiana. Et juste pour, il faut aller voir la vidéo sur YouTube, mais pour écouter l'explosion littéralement du Madison Square Garden, honnêtement, c'est assez monstrueux. C'est un panier donc qui fait gagner New York. New York qui en 1999 va faire l'un des plus beaux parcours en playoff de l'histoire. Ils sont 8e de la conférence Est, donc ils affrontent la meilleure équipe de l'Est au premier tour, Miami. Ils gagnent et ils vont aller en finale sans Patrick Ewing, leur star, qui vont perdre au milieu des playoffs. Ça va s'arrêter en finale contre San Antonio, mais c'est un parcours de col bleu à l'énergie, un parcours de besogneux, et dont le highlight, le meilleur moment, c'est peut-être ce panier à 3 points fou qui fait exploser le Garden sur une séquence dingue d'un joueur aussi qui revenait de loin, Larry Johnson. Donc c'est pour ça, ouais, pour moi, que c'est peut-être de l'histoire moderne des Knicks, je dirais que c'est peut-être le plus grand moment.
Arnaud, ton moment ?
Alors, mon moment perso, si je peux me permettre, c'est la finale de Conf 94 et les 25 points. Les 25 points. Alors, c'est à leur dépens. Souvent, les grands moments d'Enix, c'est d'ailleurs à leur dépens.
C'est vrai.
Et évidemment. Et donc, les 25 points de Reggie Miller en un seul carton, ce qui explique aussi pourquoi il a été chambré sur le match 2 là, de cette série contre les Pacers. Donc, les 25 points de Reggie Miller qui se prend la tête avec Spike Lee qui est au bord du terrain, qui l'est toujours, hein, les 30 ans après, il y a toujours Spike Lee, c'est toujours le premier supporter des Knicks. Et donc ça, ce moment-là est incroyable parce qu'on n'était pas encore à l'époque des réseaux sociaux. J'imagine ce que ça serait aujourd'hui, quoi. Ce serait gigantesque, mais à l'époque, ça a fait la une de tous les tabloïds new-yorkais et d'Indianapolis d'ailleurs. Et donc il met 25 points, ça doit être le match 5 de la finale de conf. Les Pacers, grâce à cette performance hors du commun, m'amène 3-2 et les Knicks vont finir tout ça au match 7 et se qualifier pour la finale, quoi. Donc ils se remettent de ça alors que c'était quand même une humiliation au Garden, chez eux, etc., avec une bascule potentielle dans la série. Mais pour moi, dans l'absolu, c'est quand même le plus beau symbole des Knicks, c'est Jeremy Lin, quoi. C'est l'espèce de folie qu'il y a eu pendant un mois, un truc hors du temps, pendant un mois, février 2012, lorsqu'un gamin prend les commandes de la franchise, un gars qui avait joué 10 minutes au mois de janvier, qui est non drafté, qui ressemble à rien, que personne ne connaît, qui débarque, qui prend cette équipe en main alors qu'elle est au fond du trou. Enfin, pas tout à fait, j'exagère un peu, mais enfin, qu'elle n'était pas non plus dominante. Et il arrive au mois de février, il joue 4, 5, 6 matchs à 20 points de moyenne, quoi. Surgit de nulle part. Et il y a une espèce de folie mondiale, pas seulement new-yorkaise, ça a dépassé New York, quoi, dans le monde entier. Nous, on a fait des papiers dans l'équipe à l'époque.
Il a fait le 20h de TF1.
Il a fait le 20h de TF1 et je crois qu'il est à la fin de l'année 2012 pour un mois à 20 points de moyenne au Knicks. Il est dans le top 100 des personnalités de l'année 2012 pour Time Magazine. C'est un truc de fou, quoi.
Il n'y a qu'à New York, quoi.
Et un mois après, il était blessé. Il n'a plus jamais reproduit ce qu'il a montré pendant un mois. Et il y a, ça s'appelait l'insanity. Et oui, c'est only New York, comme on dit.
Merci beaucoup, messieurs, pour ce passionnant podcast retraçant en partie l'histoire des Knicks. Et on va suivre, bien sûr, l'évolution et le parcours de l'équipe actuelle des Knicks de Jalen Brunson en playoff. Vous pouvez suivre leur parcours sur le site et dans le journal L'Équipe. Merci encore, messieurs. Merci à Léo Stick à la réalisation. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, l'ensemble des podcasts Step Back sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.